France Culture.
France Culture, question du soir. Quentin l'a fait.
C'est la corruption lointaine, celle des élites mondiales dont on parle depuis plusieurs jours dans la presse à travers la salve de publication des dossiers Epstein par la justice américaine. C'est d'une autre corruption, un autre clientélisme dont nous allons parler ce soir. Une corruption plus proche, celle qui concerne certaines communes, certaines équipes municipales de France, pas toutes bien sûr, mais de nombreuses et toujours trop. Alors comment se passe concrètement la corruption, le clientélisme à l'échelle de la vie communale? Quelle méthode utilisent les élus concernés? Que visent-ils? Que monnaient-ils? Quelles sont les conséquences de cette corruption et comment lutter contre elle? Deux invités ce soir pour nous éclairer. Nassira El Moadem, bonsoir.
Bonsoir Quentin.
Vous êtes journaliste et présentatrice pour le site Arrêt sur Image, autrice du livre intitulé Main basse sur la ville, enquête au Blanc-Ménil, territoire trahi de la République, un ouvrage qui paraîtra demain aux éditions Stock. Face à vous, Béatrice Guillemont, bonsoir.
Bonsoir à toutes et tous.
Vous êtes docteur en droit, chercheuse associée au laboratoire Cercle de l'Université de Bordeaux, fondatrice de l'agence ETEIS. Merci à toutes les deux d'être présentes ce soir dans Question du Soir. Et je commence, Nassira El Moadem, avec votre ouvrage et sa quatrième de couverture où je trouve les mots suivants. Clientélisme, népotisme, chasse aux sorcières, censure, racisme, affairisme, immobilier, manipulation, harcèlement. Voici les termes qui sont sur cette quatrième de couverture, qui sont surtout documentés dans ce livre qui paraîtra demain. C'est ce que vous avez trouvé, perçu, vu, découvert au Blanc-Ménil, dans cette commune où vous avez enquêté.
C'est effectivement des mots qui sont pesés. Je suis journaliste, donc je fais attention évidemment aux mots et aux faits qu'on amène. Et ce sont d'abord des témoignages d'habitants, en fait. Et ce sont des témoignages d'habitants qui sont ensuite corroborés par la documentation de mon enquête, qui est une enquête qui se fait sur presque 6 ans, en fait. Depuis 2020, j'enquête sur la ville du Blanc-Ménil. Et effectivement, c'est ce à quoi j'ai été confrontée. Et moi, j'ai été assez abasourdie, en fait, de la quantité de méfaits qui sont dans cette ville. Et pour moi, c'était important parce que la question du journalisme indépendant dans ce genre de sujet est primordiale. C'est-à-dire que on est face quand même à une presse quotidienne et régionale qui, malheureusement, et je le regrette, hein, et je pense qu'un certain nombre de confrères aussi, n'a plus les moyens de faire ce travail. Et parfois, pieds et mains liés aussi avec les collectivités territoriales. Et donc, c'est aussi l'avantage de ce genre de travail au long cours avec ces livres enquête, de pouvoir avoir le temps, les moyens aussi, de pouvoir mener ce genre d'enquête.
Pourquoi cette ville en particulier? Pourquoi le Blanc-Ménil? On imagine que bien d'autres communes en France sont concernées par la corruption, bien sûr, on y reviendra, par le clientélisme également. Pourquoi avoir choisi le Blanc-Ménil?
Je pense qu'effectivement, c'est quelque chose qui est valable dans plein de collectivités territoriales, et d'ailleurs pas qu'à l'échelle de la ville, et c'est un vrai sujet en France. D'ailleurs, un certain nombre d'associations, je pense à Anticor et d'autres, le démontrent chaque jour. Le Blanc-Ménil, pourquoi? Parce que c'est une ville qui a été pendant 80 ans communiste. Et il y avait un enjeu très fort en 2014, à l'arrivée du maire de droite, qui a donc été élu, de prendre le pouvoir et de le garder, et ça s'est fait à quelques voix. Et en fait, ces quelques voix, elles vont se chercher aussi dans un certain nombre de public qu'on va aller séduire, qu'on va aller draguer. Et c'est là que la question du clientélisme se pose. Et donc, on va agir, en fait, en politique à intérêt individuel. C'est-à-dire qu'on va agréger une somme d'intérêts individuels qui vont faire ensuite des voix à capter lors des élections communales, mais aussi, ça a été le cas dans les élections départementales et législatives.
Alors, pour bien débattre et bien discuter, on va commencer par définir les termes de cette discussion, Béatrice Guillemont. D'abord, la distinction entre la corruption stricte et le clientélisme. Comment l'opérer?
Alors, c'est effectivement une bonne question parce que ça permet de poser le cadre et de comprendre de quoi on parle. Traditionnellement, quand on parle de corruption en France, on fait référence à un certain nombre de comportements, on parle d'atteinte à la probité, donc ça agrège un certain nombre d'infractions qui se retrouvent dans le code pénal, dans une section spécifique qui s'appelle des manquements au devoir de probité, mais qui se retrouvent aussi ailleurs dans des lois qui n'ont jamais été codifiées ou dans le code électoral, par exemple. En l'occurrence, quand on parle de clientélisme, la spécificité, c'est que ce n'est pas des pactes qui sont passés entre des dirigeants, donc soit du secteur privé avec le secteur public, donc je ne sais pas, des députés avec des grands groupes d'entreprises, etc. C'est des personnes qui possèdent un pouvoir ou qui aspirent à le posséder et qui vont tenter de corrompre non pas des dirigeants, mais en fait des gens qui sont dans le besoin, des administrés, des électeurs.
Et donc on n'est pas là seulement dans le cadre d'élections ou de campagnes électorales. Le clientélisme, ça peut se passer n'importe comment, avant, pendant, peut-être moins après le mandat, par contre.
En fait, généralement, quand vous commettez des faits de corruption, déjà, par principe, c'est opaque et dissimulé. Et surtout, le clientélisme, c'est à effet différé, puisqu'en fait, vous faites une promesse en espérant qu'elle se en espérant pour celui qui la reçoit, le corrompu, qu'elle se réalise a posteriori. Et si on traduit ça, donc, de ce qu'on constate sur le terrain, en droit pénal, on va retrouver ces comportements-là au sein du code pénal. Donc ça va être la corruption, le trafic d'influence, la prise légale d'intérêt, le favoritisme, par exemple pour les marchés publics, mais aussi dans le code électoral, puisqu'il y a l'article L106, qui condamne le clientélisme, ces pratiques-là.
Je voudrais vous faire entendre la voix de ce maire, Nassir El Mohadem, sur lequel vous avez travaillé. Lui et son entourage, on y reviendra. Thierry Meignan, il s'exprimait le 27 décembre 2017 au micro de France 3 dans le 19-20.
Au Blanc-Ménil, on aime le foot, Mbappé et Neymar. Comme le PSG fait rêver le personnel de sa ville, le maire a donc décidé de leur offrir des places pour des matchs. Depuis 2014, il a dépensé 140 000 euros en abonnement. Un coût qui n'aurait aucun intérêt communal selon la Cour régionale des comptes, mais que le maire assume.
Autre réserve des places pour Euro Disney, chez nous c'est plus porteur le PSG. Donc j'ai pris 30 abonnements qui sont distribués dans 95% des cas à des agents de la ville. J'ai fait également les tickets restaurants, c'est la politique sociale de la ville. Donc on ne peut pas me reprocher ça. Et pour les quelques places, les 5% qui restent, elles sont distribuées soit à des gamins du club de foot, soit à des gens qui ont fait bonne œuvre au service de la ville.
C'est presque anecdotique, Nassir El Mohadem, cette archive-là, notamment compte tenu de l'océan de faits que vous révélez dans cet ouvrage intitulé « Main basse sur la ville ». Comment vous analysez ces propos ? C'est troublant parce qu'il fait appel au fond à la politique sociale de la ville. Du moins, il prétend la servir, cette politique.
Oui, c'est intéressant qu'il utilise ces éléments de langage-là, puisque c'est clairement de la communication. La question de la politique sociale, c'est un vrai sujet au Blanc-Ménil, dans cette ville-là, mais dans plein d'autres villes, hein, a priori, y compris dans la Seine-Saint-Denis, parce qu'il faut dire, c'est que la majorité des villes de Seine-Saint-Denis sont à droite. Aujourd'hui, elles sont plus à gauche, malgré les préjugés qu'on peut avoir. Mais c'est vrai que c'est assez ironique, parce que il a quand même démantelé un certain nombre de choses de la politique sociale qui avaient lieu avant son arrivée. Je pense, par exemple, aux assistants sociales qui sont quasiment inexistantes et qui sont aujourd'hui encore présentes grâce au département de la Seine-Saint-Denis qui est situé à gauche. Et oui, il y a une politique sociale qui a été rasée, mais en fait c'est tout qui a été presque démantelé. C'est pour ça que moi j'appelle cette politique-là un rouleau compresseur, parce qu'en fait tout est anéanti, y compris jusqu'aux gens d'ailleurs, puisque je raconte longuement et j'enquête longuement sur le suicide d'un des cadres qui a été celui qui, je crois, a compris très vite ce qui était en train de se jouer et qui était en charge du marché de l'eau, un marché très important de plusieurs millions d'euros et qui s'est suicidé dès les premiers mois de l'arrivée de Thierry Meignan à la tête de la ville. Mais je voulais juste revenir sur ce que disait tout à l'heure ma consoeur, c'est que, en fait... Effectivement, ce clientélisme-là, celui dont je parle dans le livre, il est très présent lors des campagnes électorales parce que c'est là où tout se joue, en fait, dans les villes. Mais en réalité, il s'étend tout le long du mandat parce que c'est le numéro 3, l'ex numéro 3 de la ville qui me le raconte. Il était donc directeur général des services techniques et il m'explique que lorsque Thierry Meignan promet par exemple une école musulmane ou promet par exemple l'édification de la mosquée qui avait été déjà promise par les communistes avant, eh bien en fait il m'explique que la mairie fait durer les procédures pour que tout ça commence au moment où il est élu et se termine presque au moment où il doit être réélu lors de la prochaine campagne électorale. Et donc, c'est très intéressant à quel point, en fait, les élus locaux savent aussi jouer de ces calendriers électoraux.
Si l'on se concentre, Béatrice Guillemont, effectivement, sur ce segment particulier, on élargira ensuite, mais sur ce segment des campagnes électorales, comment se manifeste concrètement le clientélisme, pour le dire d'une manière un peu plus vulgaire, comment certains élus achètent concrètement soit des voix, soit se rapprochent de certaines communautés. C'est pas forcément d'ailleurs des communautés ethniques, ça peut être des communautés professionnelles. La variation est extrêmement large.
Oui, effectivement, c'est pas forcément du clientélisme communautaire, il est protéiforme. Bien, généralement, ce qu'on constate sur le terrain, ce qu'on observe, ça va être des propositions de logement social. Quand on sait que la France connaît une énorme crise du logement, avec 2,7 millions de personnes qui sont en attente de logement social, à Paris, il faut plus de 10 ans pour avoir accès à un logement social. Si on est inscrit comme demandeur, ça veut dire qu'on fait partie des gens qui se rendent dans les barèmes et qui donc en ont besoin. Donc on est des nécessiteux.
Je vous coupe, pardonnez-moi, je posais une question de manière un peu naïve, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'un maire, un élu va voir 5, 10, 100, 1000 personnes pour leur proposer des logements sociaux ? Comment ça se passe dans l'interaction pratique ?
Quand c'est un maire sortant, généralement il a fait 6 ans, il a des élus, enfin il a des agents avec lui, des élus, donc il connaît quand même bien sa ville, il connaît un centre de famille, il peut s'adresser à un centre de famille, il est parce que c'est des gens avec qui il est en interaction au quotidien hein, quand même. Et donc c'est dans ce cadre-là que ça va être possible de proposer. Après, dans le cadre de la campagne, eh bien, on a des rendez-vous avec des associations. Mmh. Et les associations viennent dire, bah, écoutez, nous, on vient de se constituer, on aurait besoin de 100, de 50 000 euros, 60 000 euros. Et bien, alors ça, c'est un formidable levier. C'est l'un des deuxièmes leviers en termes de clientélisme. Après, c'est les marchés publics. On va aller voir des promoteurs. On a envie de refaire un petit peu la ville, de créer un nouveau dynamisme économique au sein de la ville.
Mais les marchés publics en campagne, c'est quelque chose généralement qui est beaucoup plus compliqué, pardonnez-moi, à mettre en place, à mettre en œuvre.
Ah, complètement. Il y a des règles, c'est très strict. Il y a les règles de la commande publique. Mais par contre, vous pouvez vous organiser en amont pour, d'une certaine manière, truquer les marchés publics. Il y a plein de techniques différentes. J'ai l'impression, si on relève, on va révéler certains secrets, donc il y a aussi les marchés publics. Ou alors, c'est peut-être aussi des services administratifs, par exemple. Je fais accélérer ton dossier de demande de telle chose, de demande de crèche, etc. etc.
Nassirel Moedem.
Oui, c'est intéressant ce que vous disiez tout à l'heure, Quentin. C'est vrai que ce n'est pas forcément des communautés ethniques ou d'origine. Par exemple, moi, je parle beaucoup des Tamouls et des Comoriens, mais quand même. Parce que en Seine-Saint-Denis, il y a un certain nombre de diasporas qui existent et les élus ont tout à fait compris aussi ce qu'ils pouvaient en tirer comme bénéfice politique et électoral. Et c'est assez ironique parce que le maire du Blanc-Ménil, qui est par ailleurs sénateur en réalité, mais qui officieusement est toujours maire parce qu'il occupe le fauteuil de maire. Mmh. Tout ça a été documenté aussi par d'autres confrères. Le problème, c'est que la droite a toujours considéré que le communautarisme, c'était mal. C'est quand même le discours officiel de la droite de dire que c'est un mal de la France, c'est un même mal endémique de la Seine-Saint-Denis, qu'il faut le combattre, etc.
Or, certains à gauche défendent également ce discours.
Absolument. Mais en l'occurrence, il fait partie de la famille de droite. Et moi, j'explique dans le livre qu'il a basculé à l'extrême droite. Mais c'est un autre sujet. Mais en tout cas, c'est le discours officiel. Or, ce qu'il se passe, c'est que effectivement, il y a un certain nombre d'opérations électorales qui sont faites à l'égard de ces communautés. Et moi, je les documente tout à fait. Par exemple, à l'égard des Tamouls, où on va aller lors d'une grande réunion de l'association franco-tamoule de la ville, où on va dire, on va ériger un mausolée à la destination de la diaspora. On va vous donner une grande salle. Et juste après, le candidat tamoul qui est sur la liste du maire sortant, eh bien, on va dire, votez pour nous. Je parle aussi des Comoriens qui sont instrumentalisés dans une opération humanitaire complètement bidon là à destination du vote à l'égard de sa compagne Christine Sérigone qui était candidate à la députation législative de 2017. Donc c'est un vrai problème. Et pourquoi c'est un problème surtout en Seine-Saint-Denis ? C'est qu'en fait on est face aussi à une vulnérabilité des habitants. Et c'est là où c'est important de le rappeler, c'est-à-dire qu'on est face à des gens qui sont dans des situations très précaires socialement, économiquement parlant, voire même aussi dans leur statut parce qu'un certain nombre sont en situation illégale sur le territoire français. Et ça les met en vulnérabilité et avoir face à vous quelqu'un qui est un élu, qui est quelqu'un qui incarne l'autorité, vous dire cela, eh bien ça vous rassure aussi quelque part. Mais ça implique effectivement un déséquilibre dans la relation et une ascendance qui pose réellement problème.
Et un véritable rapport de pouvoir. Autre question naïve, Nassira El Moedem. Une fois qu'on m'a promis un logement ou une fois qu'on m'a juré que le traitement de mon dossier serait accéléré, qu'est-ce qui prouve que je voterai bien pour la personne qui m'a, au fond, rendu, je mets des guillemets, ce service ?
Bah rien. Il n'y a absolument rien, puisque le vote est tout à fait secret. Vous êtes dans l'urne et vous faites à peu près ce que vous voulez. Vous pouvez aussi ne pas vous déplacer. Alors là, c'est intéressant, parce qu'il y a quand même des... Pardon ?
Il y a un petit détail quand même, c'est que...
Béatrice Guimond.
Ouais, on peut voir les personnes qui ont voté.
Alors voilà, c'est ce que j'allais dire. Ouais. En fait, ces villes-là, souvent, et en l'occurrence, c'est ce que fait la ville du Blanc-Ménil, regardent très précisément qui va voter. Et d'ailleurs, on le fait remarquer, y compris aux agents. Les agents de la ville qui ne vont pas voter, on va les voir et on va leur dire Pour quelle raison t'as pas été voté ? Sous-entendu, pour quelle raison tu n'as pas été voté pour nous ? Ce que je raconte dans le livre également. Et donc, oui, ça pose de véritables problèmes.
Béatrice Guimond.
Même en termes de droit du travail. C'est quand on entend ça. Oui, en fait, il y a une pratique qui consiste, entre les deux tours, à aller récupérer les livres d'émargement, aller regarder qui a voté. Et quand on dit, si tu veux un logement social, ça serait bien que toute ta famille vienne voter, on va aller regarder l'ensemble des noms. Généralement, ils sont sur le même bureau de vote. Et puis, on fait des croisements de données, parce qu'on a quand même une semaine pour faire ça. Et on va taper à la porte des personnes. Je voudrais revenir sur le propos qui a été tenu par Nassira. Moi, ce que je constate en tant que juriste, en tant que chercheuse en droit, qui travaille depuis de nombreuses années sur les questions de la corruption et le clientélisme est un des éléments du phénomène de corruption, c'est qu'en fait, il y a de la corruption aussi, parce qu'en face, il y a de la demande. C'est une offre, ou une promesse en l'occurrence, d'offre, face à une demande.
Vous voulez dire une demande citoyenne pour la corruption, pour le clientélisme ?
Alors, je vais préciser encore plus précisément, face à un besoin. C'est-à-dire que quand on est face à des...
C'est la vulnérabilité dont je parlais.
Oui, c'est exactement ce à quoi je fais référence. Quand on est face à des publics, des administrés, et qui deviennent à ce moment-là des électeurs temporairement, qui sont dans des situations de vulnérabilité, de dépendance, de précarité, voire de très grande précarité, c'est un public cible, plus facile à atteindre, à qui on peut faire de belles promesses. La promesse n'engage que ceux qui les écoutent, comme on le sait. Et puis derrière, si ça n'a pas d'effet, c'est pas grave. Enfin, parce que justement, c'est pas si engageant. On peut pas vraiment. Je suis en train de me perdre mes propos, mais c'est ça le sujet. Et moi, avec le recul que j'ai sur ces années de recherche en droit sur le sujet, je finis par me dire que en fait, l'état de droit ne peut pas tout. Que les règles, on nous dira, mais il faut renforcer le dispositif légal. Mais on a pléthore d'infractions dans le code pénal. On a pléthore d'infractions pour condamner ce type de pratique. D'ailleurs, le code électoral répète le code pénal. Bon, ça veut dire qu'on en a suffisamment. On a augmenter les moyens, on a adopté une loi et demie par an pendant entre 2013 et 2017. On a énormément travaillé sur la question de la probité et pourtant, ce sujet du clientélisme, il revient à chaque élection, singulièrement au niveau local. Donc, c'est-à-dire que les règles de droit ne peuvent pas tout et que c'est peut-être pas la bonne réponse à apporter pour la politique pénale. Et cette politique, c'est pour la politique publique de lutte contre la corruption. Et la politique publique de lutte contre la corruption, c'est peut-être pas que la répression, c'est peut-être pas que de la prévention, c'est peut-être aussi une réponse économique à des problèmes qui sont des problèmes économiques.
Je voudrais vous faire entendre une autre voix du Blanc Ménil, celle de Jalal Essali, directeur du café associatif Le Tilia au Blanc Ménil, donc condamné à l'expulsion locative par la mairie.
Alors Le Tilia, c'est un tiers-lieu qui agit en prévention de la perte d'autonomie auprès des personnes porteuses de handicap et des personnes âgées. L'association est menacée d'expulsion locative parce que c'est un bâtiment voué à la démolition. On ne conteste pas le bien fondé du fait de devoir partir simplement. On nous a rien proposé et puis non seulement on nous a rien proposé, mais on bute sur la mauvaise volonté malheureusement de la municipalité. Il m'a été indiqué que la municipalité ne voyait pas d'un bon œil l'action de l'association et que pour améliorer nos rapports, cela impliquait de soutenir l'action de la municipalité. Nous, on est des travailleurs sociaux qui sommes dans le champ social plutôt que dans le champ politique. On est complètement disposés à travailler avec la municipalité, mais selon une logique de partenariat plutôt qu'une logique de contrôle politique.
Vous êtes d'accord avec cette expression, Nassira El Mouadem, de contrôle politique qui est exigé de la part de la mairie, des élus, de certains élus du Blanc-Ménil concernant le tissu associatif et les personnes qui s'engagent pour la protection sociale des habitants ?
Oui, c'est assez clair, et je le documente d'ailleurs dans le livre, et de toute façon, c'est valable dans plein d'autres collectivités territoriales, hein, pas qu'au Blanc-Ménil, mais il est clair que si on ne fait pas allégeance, on n'a pas voix au chapitre, au-delà du fait...
Il faut faire allégeance.
Ah oui, il faut faire allégeance, c'est un mot que j'utilise sans aucun problème, mais parce qu'encore une fois, il se documente, il se vérifie dans les faits. Là, on a entendu Jalal Essali, qui est effectivement le président du Tilia, qui est le dernier lieu associatif, c'est surtout ça qu'il faut dire, et d'ailleurs le dernier lieu social tout court de ce grand quartier des Tilleuls, qui est un quartier de 10 000 habitants et qui est voué à une énorme opération de rénovation urbaine. Et en fait, effectivement, en fait, on leur a fait comprendre que c'est parce qu'ils n'allaient pas dans le sens de la municipalité, de la ligne politique de la municipalité, qu'on leur disait de partir. Mais ça a été le cas aussi pour d'autres associations. Et c'est là où c'est intéressant. C'est que j'ai aussi en tête une association de judo dont je parle dans le livre. Il y a deux grandes associations de judo au Blanc-Ménil. Il y en a une qui fait les frais de la municipalité parce que le président s'est s'est porté candidat au départemental de 2015 et le maire ne l'a pas supporté. Et d'ailleurs, il est aujourd'hui candidat contre lui. Mais oui, il y a quelque chose de l'ordre du contrôle social et du contrôle politique. Et c'est là où je crois, nous, les journalistes, on a un rôle à jouer. Parce qu'encore une fois, il n'y a plus beaucoup de personnes qui enquêtent. Et par ailleurs, les voix à l'intérieur, elles sont muselées. On est quand même dans des écosystèmes très, très petits, très fermés, en fait. Et donc, si les voix associatives n'ont plus voix au chapitre, si les opposants sont pieds et mains liés, parce qu'on sait que dans les municipalités, c'est très difficile de se faire entendre. En fait, il n'y a pas vraiment de démocratie locale à l'intérieur des conseils municipaux. En fait, c'est des caisses d'enregistrement. Tous les experts le disent. Mais il n'y a plus que les journalistes pour faire ce travail.
Cela résonne par ailleurs, Béatrice Guimond, à ce que vous nous disiez en préparant cette émission. Les associations sont souvent, malgré elles, parfois en tout cas, la courroie de transmission, non pas de cette corruption, mais de ce clientélisme, parce que l'État, l'action publique a été déléguée à ces associations.
Oui, en fait, la France, elle est organisée d'une certaine façon. Elle a donc des pouvoirs centraux, puis des pouvoirs décentralisés. Et l'État ne peut pas tout. Donc, à un moment donné, la politique publique s'arrête et elle est déléguée à des acteurs privés. Par exemple, au niveau national, la politique en matière de rugby, donc de compétition de rugby et de professionnalisation du rugby, ça a été donné par délégation de service public à une association qui s'appelle la Fédération française de rugby. Et donc ça, nous, on ne s'en rend pas forcément compte, mais il y a beaucoup d'associations en France qui viennent en fait finaliser ou mettre en œuvre une partie de la politique publique française. Et donc, de fait, c'est une courroie de distribution. Et donc, soit c'est des associations qui se créent spontanément parce qu'elles identifient un besoin, soit c'est des associations à des acteurs à qui on demande de monter des associations et à qui on promet des subventions pour pouvoir fonctionner. Mais à un moment donné, effectivement, eh bien, quand on a envie d'avoir une association, d'avoir un financement, ben c'est le moment des élections, on va porter la parole aux candidats. Et inversement, quand on a envie que cette association se mobilise pour apporter des voix, on va lui proposer quelque chose. Je voudrais juste revenir un instant sur quelque chose, parce que vous, en début d'échange, vous demandiez comment ça se matérialise finalement, ce clientélisme. Et dans l'exemple qui est donné par Nassira, moi, je peux vous faire la traduction de comment ça se passe d'un point de vue administratif. Donc, on entend que la politique sociale a été un peu démantelée et qu'au final, c'est le maire de Blanc-Mesnil qui distribue un certain nombre d'avantages, en l'occurrence, des places pour le PSG au Parc des Princes. Mais en fait, ce que ça veut dire, au final, en termes de gestion publique locale, c'est que dans une gestion, il y a des lignes, des programmes avec différents types d'instances.
Des lignes budgétaires, vous voulez dire?
Alors, il y a des lignes budgétaires, parce que là, vous parlez d'argent, mais il y a des programmes, des politiques publiques locales qui sont mises en place avec un certain nombre d'acteurs qui vont intervenir, qui vont porter leur regard, le CCAS, etc., etc., le département, la région.
Et donc, le CCAS, c'est l'organisme qui s'occupe de l'action sociale et des affaires sociales.
Voilà, et donc il va y avoir plein d'acteurs différents qui vont intervenir dans cette réalisation de cette politique publique-là. Et en fait, quand on décide de faire sauter cette politique publique-là, ça permet d'enlever tous ces contrôles-là, de ces différents acteurs-là, puisqu'en plus, il y a un contrôle de conformité, il y a un contrôle de gestion qui est opéré. Donc si on enlève tout ça, on peut garder le budget, et ce budget-là, on se dit, finalement, je vais acheter des places à Disney, au Parc des Princes, à l'Olympique de Marseille, parce que c'est de meilleur goût. Et au final, on distribue ça de façon complètement arbitraire, comme le fait du prince. Mmh. Et c'est là où, en fait, ça fait aussi sauter tous les contrôles démocratiques, déjà qu'effectivement, les conseils municipaux ne sont pas très...
Nassir El Mouadem.
Oui, et puis ce que je voulais dire par rapport à l'action sociale, c'est que là, en l'occurrence, on parlait du Blanc-Mesnil et de ces actions du maire. Là, en l'occurrence, ce sont les associations et le peu d'associations qui restent, hein, qui font ces actions sociales-là. Et le TILIA en fait partie. C'est peut-être une des seules associations qui fait du social, notamment au TILIA. Donc c'est...
Oui. Je voudrais vous faire entendre une autre voix, d'autres voix plutôt, des témoignages d'habitants de Corbeil-Essonne écœurés par l'affaire Serge Dassault, sur laquelle nous allons revenir.
Disons que je ne suis pas étonnée de toutes ces magouilles. Hein. Bon, point, ça ne me regarde pas. Vous savez, la politique, aujourd'hui, on en a un petit peu ras-le-bol. Hein.
C'est dramatique pour notre ville. Je préfère qu'on en parle autrement, quoi.
J'ai envie de dire que la population a plus vraiment confiance en tous ces hommes politiques et que ils ne font que justifier notre perte de confiance, quoi.
C'est encore la saga d'assaut, là, alors non, j'en ai ras le bol, alors faut plus m'en parler.
qui s'est passé à Corbeil-Essonnes, et ce depuis plusieurs années, depuis de nombreuses années, Béatrice Guimond, c'est peut-être un cas d'école, même un espace de formation. On y reviendra avec Nassir El-Mohadem sur l'apprentissage par certains élus de la corruption et du clientélisme.
Ah bah oui, il y a des exemples un peu éponymes en France, dans certaines collectivités, et notamment en Île-de-France, le cas de Corbeil-Essonnes, où il y aurait eu, parce que finalement, le Serge Dassault a passé l'arme à gauche avant que la justice puisse statuer, mais il y aurait eu une tentative d'assassinat, il y aurait eu de l'argent, du cash hein, qui aurait été distribué directement à des personnes pour obtenir des votes.
Ça a été reconnu par la justice.
Ouais, donc c'est quand même, enfin là, c'est quand même, et puis surtout, à partir du moment où on commence à organiser des assassinats, on passe à des stades qui sont quand même, qui relèvent de la grande délinquance.
Nassir El-Mohadem, il y a un lien hein, que je ne connaissais pas, en tout cas pour ma part, entre la corruption de Corbeil-Essonnes et celle du Blanc-Ménil, et notamment un homme.
Oui, c'est ça qui m'a vraiment frappé dans cette enquête, c'est qu'il y a un personnage qui fait le lien entre ces territoires-là, et pourtant ils n'ont absolument rien à voir géographiquement parlant, et y compris aussi avec les Hauts-de-Seine. Ce personnage, il s'appelle Gérard Le Suisse, c'est quelqu'un qui a vraiment existé, c'est une personne qui a été donc conseiller spécial du maire, et en fait sa fonction, c'est assez simple, c'est quelqu'un qui a été recruté pour faire la chasse aux communistes, la chasse aux sorcières, et faire le ménage à l'intérieur des villes de gauche qui passent à droite, et les villes communistes qui passent à droite. Il l'a fait au Plessis-Robinson, et il l'a fait effectivement aux côtés de Serge Dassault à Corbeil-Essonnes, et puis ensuite il est venu faire aussi le travail au Blanc-Ménil. Ce qui est important, je trouve, à rappeler quand même, si on doit un peu élargir la focale...
Je me permets de vous couper sur cette expression, qu'est-ce que ça veut dire venir faire le travail? Vous racontez dans votre livre qu'il y a presque un découpage des tâches avec le maire qui occupe la fonction publique, celle de l'élu plus gentil entre guillemets que l'autre, et quelqu'un dans l'arrière-boutique, au fond de la boutique, qui vient faire ce travail entre guillemets de corruption et plus violent également.
Il est là parce qu'en fait, il a la connaissance des collectivités territoriales. En fait, quand le maire arrive au Blanc-Ménil, enfin, quand il est élu au Blanc-Ménil en 2014, Thierry Ménien, il ne connaît rien au fonctionnement d'une mairie. Il ne connaît rien au fonctionnement d'une collectivité qui est plutôt une moyenne collectivité, hein, 50 000 habitants. Aujourd'hui, on est à plus de 60 000 habitants. Donc, il a besoin d'être aidé, épaulé. Et donc, Gérard Le Suisse sert à ça. Mais il est là aussi pour faire ce qu'il a toujours fait ailleurs. À Corbeil-Essonnes, de nombreux témoins me le racontent. Au Plessis-Robinson aussi. Et puis, au Blanc-Ménil. C'est en fait de faire partir tous ceux qui gênent le pouvoir. Tous ceux qui sont les petits grains de sel. Il y a un certain nombre de cadres et avec un nombre bien plus élevé qu'une simple alternance, parce qu'on sait que quand il y a une alternance, des gens partent, arrivent, c'est assez classique. Là, le nombre de gens qui partent et qui partent par défaut, qui n'ont pas choisi de partir parce qu'on les a fait partir, est assez hallucinant. Et il y a ce suicide de Philippe Wangmang, dont je parle dans le livre, qui est un cadre qui est arrivé en 1999 à la tête de la ville, qui est quelqu'un qui était extrêmement apprécié et qui malheureusement se défenestre du 14e étage parce qu'il est sous pression, sous harcèlement de ce conseiller spécial. Ce que je voulais dire aussi, si on élargit quand même un peu la focale, ce qui est intéressant, je trouve, dans l'enquête que j'ai menée, mais plus globalement, dans ces actions politiques de ces collectivités-là, c'est l'expression « les remparts de la République ». Moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup entendu dans le débat public lorsque j'ai
commencé... Qui dit ça ?
Bah, les médias, les politiques.
Les élus eux-mêmes, parfois.
Parfois, oui. C'est-à-dire s'affichant comme étant ceux qui vont défendre la République, défendre la loi, sous-entendu contre ceux qui la maltraitent, les délinquants, les habitants nocifs, etc. C'est ça qu'on entend. Et on l'entend beaucoup en Seine-Saint-Denis. Sauf que moi, ce que je vois, c'est que les élus... Et en l'occurrence, ceux-là, ce sont eux qui piétinent la République tous les jours. Et d'ailleurs, les habitants sont effarés. Et beaucoup me disent, mais en fait, à quoi ça sert qu'on aille voter, en fait, demain? À quoi ça sert qu'on aille voter, puisque tout ce que l'on peut dire n'est pas écouté? Et puis surtout, ceux qui sont aux manettes n'ont quasiment jamais de compte à rendre. Et pour revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure, sur la question du contrôle, il y a quand même aujourd'hui la préfecture qui est censée contrôler les actes administratifs, c'est le contrôle de l'égalité. Ce dont je me suis rendu compte, et c'est pas moi qui le dis, c'est la documentation et c'est l'État lui-même, c'est qu'il a donné de moins en moins de moyens aux préfectures pour faire ce travail, et il y a des millions, et je dis bien des millions, d'actes administratifs, des collectivités qui ne sont pas contrôlées parce qu'il n'y a plus la main d'œuvre pour les faire dans les préfectures. Et c'est un vrai problème démocratique.
Est-ce que dans le même temps, Béatrice Guillemont, les citoyens eux-mêmes n'ont pas un rapport parfois schizophrénique, en tout cas dual à cette corruption, à ce clientélisme? Ces citoyens qui sont parfois heureux qu'on leur permette d'accéder à un logement, qu'il soit social ou non, qu'ils soient peut-être aussi heureux d'accéder à une place en crèche, à un voyage. Je pense évidemment au voyage qui a été promis par la commune de Levallois-Perret à certaines personnes âgées ou certaines personnes en retraite. Au fond, parfois, les citoyens eux-mêmes y trouvent leur compte et continuent de réélire des élus qui ont été condamnés pour corruption, pour clientélisme.
Oui, il y a quelque chose de paradoxal dans ça. À la fois, on voit que le sujet de la probité, c'est un des sujets principaux dans le cadre des élections, avec le pouvoir d'achat et la sécurité en ce moment, puisque c'est des... Bref. Mais au final... c'est vrai que quand ils se retrouvent dans une collectivité où finalement ils ont accès à un centre d'avantages et qui en fait relève davantage du clientélisme, eh bien, ils auraient tendance à revoter pour le même maire. Et c'est des situations qui se constatent. Alors, on a toujours l'exemple éponyme de Levallois-Perret. C'est le cas, mais il y a d'autres villes dans le sud de la France où finalement il y a un maire qui est condamné pour ce type de pratique-là. Il a une peine d'éligibilité, il exécute sa peine et puis après il revient, il se représente, il est réélu au premier tour. Et là-dessus, c'est vrai que l'exigence de probité, qui est une exigence à la fois philosophique, mais aussi une exigence morale, qui est inscrite dans la loi française et qui est imposée à tous les responsables publics français et singulièrement à l'endroit des élus, c'est une exigence. Ça porte bien son nom. C'est pas juste une valeur, c'est une exigence. Et ça exige de soi de sans arrêt se remettre en question et de sans arrêt remettre en question ses propres pratiques. Et seulement cette exigence, en fait, elle ne pèse pas uniquement sur les responsables publics et sur les millions d'agents publics qu'on a en France, elle pèse aussi sur les citoyens eux-mêmes qui doivent en fait s'interroger sur leurs aspirations et qu'est-ce qui est le plus important pour eux.
Ce qu'on découvre également, Nassir El-Moedem, en vous lisant, c'est que Sarah Knafo a touché une subvention de 20 000 euros de la part de la commune du Blanc-Mesnil, en tout cas son association.
Oui, c'est en décembre 2020, très précisément. Et d'ailleurs, à l'époque, je ne connaissais pas cette dame-là. Et il s'avère que j'étais au conseil municipal lorsque cette subvention a été votée. Et elle était à ma gauche. Et elle pianotait sur son téléphone. Et je voyais qu'il y avait quelque chose, une agitation, etc. Et en fait, elle dialoguait avec le directeur de cabinet du Blanc-Mesnil, Vijay Munani, à l'époque, qui est aujourd'hui le secrétaire général adjoint du groupe parlementaire d'extrême droite dans lequel elle siège au Parlement européen.
Association qui s'appelait Alexandre et Aristote.
Cette association s'appelle...
à donner des conseils de lecture.
Alors voilà, c'était en tout cas l'affichage qui était proposé, c'était de dire que cette association allait démocratiser l'accès à la lecture aux jeunes de la Seine-Saint-Denis. Alors il s'est avéré qu'en fait cette association est complètement bidon, et je le dis vraiment sans aucun problème. Toutes les actions qui ont été promises n'ont pas été faites. Elle avait promis d'aller voir les lycéens pour leur proposer des ateliers de lecture. Tous les directeurs, tous les proviseurs des lycées du Blanc-Mesnil que j'ai rencontrés, que j'ai eu au téléphone, m'ont expliqué qu'il n'y avait jamais rien eu. Il n'y a eu aucune action qui a été menée. L'argent devait servir à développer un site internet d'algorithmes d'accès à la lecture. Il n'a jamais été développé. Et d'ailleurs, pour preuve, lorsque je pose la question à Sarah Knafo, elle me raccroche au nez et son équipe m'explique que en fait, il y a eu quelques euros dépensés pour le développement, mais quand je leur demande les preuves du paiement, il n'y a plus personne. Moi, je pose la question.
Une partie de la somme a été remboursée à la mairie.
Alors, c'est ce qui a été dit aujourd'hui à la faveur de la sortie d'un papier dans l'Obs qui reprend mon enquête.
Confirmé par la mairie.
Par ailleurs, lorsque moi je pose la question, la réponse ne m'a pas été donnée. Donc j'apprends aujourd'hui, à la faveur de la sortie de l'enquête, qu'il y a effectivement ce remboursement. Mais s'il y a un remboursement, ça veut dire que l'opération n'a pas été menée correctement comme elle aurait dû être menée. Mais je pose la question, est-ce que ces 20 000 euros qui ont été votés en décembre 2020, prélevés d'une ville pauvre de Seine-Saint-Denis, est-ce qu'ils n'ont pas servi à démarrer la campagne électorale à la présidentielle d'Éric Zemmour, qui a commencé quelques semaines après, en janvier 2021, dans l'appartement parisien de Sarah Knafo, qui était le même domicile, la domiciliation de l'association Alexandre Aristote.
Et on précise qu'en dessous du seuil de 23 000 euros, les associations n'ont pas à rendre compte effectivement de l'emploi et de l'usage des sommes qui leur ont été attribuées.
Ce qui n'empêche pas les élus de rendre compte auprès de leurs citoyens de la bonne utilisation des deniers publics. Ça pose aussi la question de la relation en fait morale entre autorités politiques, y compris locales, et citoyens. On ne peut pas d'un côté demander la transparence et la probité à l'échelle nationale et ne pas la vouloir à l'échelle locale. Il y a quelque chose qui, pour moi, est une forme de contradiction.
Béatrice Guimond.
Ce qui n'empêche pas aussi d'éventuelles qualifications pénales.
Par ailleurs, est-ce que ce que l'on décrit là, dans cette discussion, les villes que l'on pointe, le Blanc-Mesnil, Corbeil-Essonne, le Valois-Perret, des villes également dans le sud de la France, est-ce que c'est au fond une somme d'anomalies, Béatrice Guimond, où énormément de villes sont concernées en France? Est-ce qu'on parvient aujourd'hui à quantifier cela, à mesurer l'ampleur de la corruption communale, du clientélisme à l'échelle municipale?
C'est quasiment impossible à mesurer dans la mesure où ce sont des actes par principe opaques et dissimulés. Mmh. On ne va pas écrire sur le fronton de la mairie qu'en échange de 15 000 euros pour une association, on attend 150 voix supplémentaires. Et effectivement, parfois, les élections, ça se joue à 10, 20, 50, 60, 100 voix.
Surtout quand il y a beaucoup d'abstention.
Surtout quand il y a beaucoup d'abstention. Donc, c'est très difficile à mesurer, donc très difficile à combattre. Et moi, c'est pour ça que je reviens à ce que je disais au moment dans l'émission. C'est qu'on voit bien que là, en fait, l'arsenal juridique, à la fois répressif et préventif, il a été mis en place. C'est sûr que les juridictions ont besoin de beaucoup plus de moyens parce qu'elles peinent à faire leur travail.
Et les services administratifs.
Et les services administratifs et la préfecture. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, il a fallu dégraisser le mammouth de l'État. Mais du coup, il y a moins de moyens pour contrôler, faire du contrôle de l'égalité. Mais là-dessus, c'est presque une pénurie qui est organisée. Et c'est parce qu'il y a une faillite de l'État-providence, il y a une faillite de l'État normatif, il y a une faillite dans les moyens, que aussi la corruption ou le clientélisme là spécifiquement prospère.
En 30 secondes chacune, pardonnez-moi, le temps est compté. Comment lutter alors contre le clientélisme? Que peut faire l'État? Que peuvent faire aussi peut-être les citoyens qui auront voté dans quelques semaines? Nassir El-Mohadem, pour commencer.
Oui, moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est la question des citoyens, effectivement. Moi, d'abord, j'invite les gens à aller assister aux conseils municipaux. C'est très important, en fait, et c'est très intéressant de voir que, par exemple, au Blanc-Mesnil, on a un maire officiel qui lit très péniblement les fiches qui sont adressés par les services municipaux et qui, lorsqu'il s'agit de rendre compte et de répondre à l'opposition, c'est le sénateur qui répond et ça pose une vraie question d'exercice démocratique. Je les invite à aller voir les conseils municipaux, à aller lire les procès-verbaux des conseils municipaux qui sont très instructifs. Et puis aussi...
S'ils ont accès,
mais normalement c'est une obligation et là c'est pareil. Et puis, dernière chose, je crois que nous aussi, les journalistes, on a un travail à faire de confiance aussi à l'égard des citoyens, parce qu'on sait qu'il y a une énorme défiance envers nous. Et j'espère que ce genre de travail et d'enquête journalistique y participe.
Béatrice Guimond, quelques mots également.
Pour les citoyens, faire une hiérarchie des valeurs qui sont les leurs, qu'est-ce qui est le plus important? Est-ce que c'est la probité, finalement, notre démocratie et l'état de droit? Ou est-ce que c'est des petits arrangements, des petits avantages hypothétiques? Pour les candidats aux élections, même combat. Et puis, pour l'État, peut-être porter un regard nouveau sur le sujet de la corruption et comprendre, en fait, qu'on est dans un pays qui est riche, qu'il y a de l'argent. Peut-être qu'on ne prélève pas correctement un certain nombre de ressources pour alimenter le budget général de l'État. Et que si on arrivait à prélever correctement les deniers, eh bien, on pourrait mener des politiques sociales. Et qui permettrait aussi de lutter contre la corruption.
Merci beaucoup à toutes les deux. Béatrice Guimond, docteur en droit, chercheuse associée au laboratoire Cercle de l'Université de Bordeaux, fondatrice de l'agence ETIS, Nassir El-Mohadem, journaliste, présentatrice pour le site Arrêt sur Image, auteur de ce livre passionnant intitulé « Main basse sur la ville, enquête au Blanc-Mesnil, territoire trahi de la République ». Cela sort demain aux éditions Stock. Merci également, un grand merci même à celles et ceux qui ont préparé cette émission. Mathias Mégy, Stéphanie Villeneuve, Diane Devancet, Antoine Héral, à suivre après le journal. Une autre question, comment le mot Palestine a-t-il été gommé du débat public israélien ?